Parlons Aviation, épisode 139. Parlons Aviation, le podcast qui parle de tout ce qui vole. Je m'appelle Antoine et aujourd'hui un double épisode où nous retrouvons deux anciens invités, Mathieu et Fabien, pour savoir ce qu'ils sont devenus depuis. Bienvenue à bord, j'espère que vous êtes confortablement installés. Parlons Aviation épisode 139 est prêt au départ. Bonjour Mathieu et bienvenue sur le podcast.
Hey, salut Antoine, merci.
Eh bien, donc tu es le premier d'une série plus ou moins longue, on verra ce que ça donne, d'épisodes qui vont nous permettre de répondre à une question, c'est que sont devenus une sélection d'invités après des épisodes qu'on a enregistrés il y a maintenant quelques temps, parce que le podcast va fêter ses 6 ans, si mon calcul est bon, et puis il y a eu entre-temps cette petite ou grande tornade qu'on a appelée le Covid, et donc il s'est passé pas mal de choses, et il me paraissait pertinent de retourner un peu à voir des invités qui avaient eu des parcours différents, plus ou moins tumultueux, pour savoir qu'est-ce qu'ils étaient devenus. Si on fait un rapide rappel de là où on s'est laissé la dernière fois, alors dis-moi si je dis des bêtises, toi tu avais fait l'armée de l'air, si je dis pas de bêtises, tu avais fait du Rafale, et puis après tu avais été faire du 330 en Asie. Où est-ce que tu en étais au moment où on avait parlé? C'était au moment du Covid, à peu près octobre 2020.
Alors oui, effectivement, j'avais fait l'armée de l'air, mais j'avais fait du Mirage 2000-5. J'avais pas fait de Rafale dans l'armée de l'air. Et au moment où on se parlait, moi j'étais chez, maintenant je peux le dire, hein, parce qu'elle n'existe plus cette compagnie, chez Cathay Dragon sur A330, basée à Hong Kong. Cathay Dragon qui était l'une des compagnies d'une grosse compagnie qui s'appelle Cathay Pacific. Donc Cathay Dragon, ça, c'était une compagnie qui volait sur 320 et 330 et elle rayonnait dans toute l'Asie, donc du Japon à l'Inde, en passant par Bali, Hong Kong, bien sûr la Chine.
Et donc toi, t'étais, on voit bien que ton accent français, t'étais pas de Hong Kong, t'avais déménagé spécialement à Hong Kong, c'était un choix que t'avais fait volontiers, ou comment ça s'était passé un peu ça, ce déménagement sur Hong Kong, dans quel contexte?
Bah écoute, c'était c'était un choix qui s'était fait, c'était un choix familial qui s'était fait, puisque j'avais choisi cette compagnie parce qu'elle me permet elle me permettait directement de pouvoir voler sur A330 après l'armée de l'air, donc qui était quand même génial. Et en fait, ce choix-là, il s'est fait parce qu'on avait aussi un désir d'expatriation, un désir d'émancipation aussi un petit peu en langue anglaise, parce que Hong Kong c'est énormément anglophone, hein, bien sûr ça parle mandarin et aussi anglais. Et donc voilà, c'est un choix qui s'était fait familialement au départ, parce que j'avais réussi quelques compagnies, j'avais réussi les sélections chez EasyJet et CityJet, mais j'avais choisi d'aller chez Cathay Dragon sur A330, justement pour cette expérience d'expatriation et aussi pour pouvoir voler directement sur un gros avion, parce que c'est quand même un avion qui était sympa. Donc on avait déménagé en famille, le déménagement, donc moi j'étais arrivé en novembre 2019, c'est ça, et la famille m'avait rejoint en février 2020. Et donc je crois qu'on avait enregistré notre épisode ensemble à la mi-2020, je crois, à l'été.
Exactement, dans ces eaux-là. Ces expériences d'expatriation, on en a déjà discuté plusieurs fois sur le podcast pour différents pays, surtout d'Amérique du Nord. Qu'est-ce que ça a donné, un peu ce retour d'expérience d'une expatriation dans un pays, dans une région qui est quand même extrêmement différente de l'Europe et puis même de l'Amérique du Nord?
C'est super, hein. Enfin, d'un point de vue personnel, déjà, voler en Asie avec les particularités climatiques, on peut avoir donc décoller de Hong Kong le matin où il fait par exemple 18 degrés, aller dans le nord de la Chine où en fait il y a eu de la neige et il a fait moins 5, et ensuite le lendemain aller dans le sud à Bali où en fait il y a des orages, il peut y avoir des tempêtes tropicales qui nous arrivent sur le coin du nez. Ouais, c'est quand même exceptionnel de pouvoir voler là-bas. Et ensuite, d'un point de vue familial, parce que moi aussi, je prends aussi et surtout l'expérience familiale, vu que j'ai des enfants, j'ai deux filles qui étaient à ce moment-là qui étaient assez petites, hein, de 6 ans et ou 5 ans et 2 ans et 6 ans et 3 ans, quand on est arrivé à mi-2020 là. C'était quand même exceptionnel hein, pour elle d'être vraiment intégrée dans un système qui était complètement un système différent de celui français, un système scolaire différent, et aussi ça fonctionne pas exactement de la même façon là-bas qu'en France. Et voilà, c'était vraiment enrichissant, et les enfants ont pu évoluer dans un environnement trilingue, parce qu'elle parlait mandarin, anglais et français. Surtout la grande qui commençait vraiment à parler mandarin, anglais et français, et la petite un petit peu moins, mais ça allait venir. Et donc voilà, c'est vraiment très enrichissant, et également pour mon épouse hein, qui a pu vivre pour la première fois en Asie. On n'avait jamais vécu en Asie hein, tous les deux, et donc c'était vraiment sympa.
Et donc est arrivé donc assez rapidement après l'emménagement avec la famille le Covid, parce que février 2020 c'est quand ça a un peu commencé à se passer de travers, dirons-nous ça comme ça. Alors, comment t'as vécu cette période? Comment ça s'est passé du point de vue asiatique?
Ça a été quand même assez progressif hein, par rapport à ce que j'ai pu voir en Europe, parce que moi j'ai pas vécu de lockdown en Asie, sauf quand je suis retourné l'été, que j'ai fait un voyage en France, je suis revenu à Hong Kong, là j'ai passé 2 semaines sous quarantaine à la maison, mais moi j'ai pas vécu de lockdown en Asie, donc en fait ça a été assez progressif, et on a eu les premières mesures contre le Covid avant même qu'il y ait eu des mesures en France, là, je sais pas si tu te souviens, avec le scandale des masques, les politiques qui disaient qu'il fallait pas porter de masque, etc., etc. À Hong Kong, ça a été plus progressif. Je me souviens du premier signe de virus un petit peu bizarre. On les a eus mi-janvier. Mi-janvier, ma famille est venue justement me rendre visite à ce moment-là, avant de repartir en France et avant de s'installer de manière temporaire, on va dire, à Hong Kong en février. Donc ils m'ont rendu visite en janvier. On avait vu les prémices du virus avec des cas en Chine, et surtout des cas qui commençaient à s'importer un petit peu à droite à gauche. Donc à partir de ce moment-là, les Chinois et les Asiatiques étant beaucoup plus, on va dire, frileux en termes de virus, commençaient déjà à porter les masques, et les masques étaient grandement conseillés, on va dire, dans les zones publiques à partir de mi-février, quoi. Début février, mi-février, ça commençait, les masques commençaient à être portés, et ça a été progressif jusqu'à une obligation de porter le masque, et ensuite une obligation de distanciation sociale. Comme il n'y a pas eu de lockdown, les restaurants ont dû fermer comme pendant 2-3 semaines maximum, et ensuite ça a été réouvert, mais avec une distanciation physique. Donc je pense que c'était un petit peu plus vivable qu'en France, où vraiment il y a eu un gros lockdown. C'était complètement différent. Et d'un point de vue des opérations aériennes, ça a été beaucoup plus brutal. On va dire qu'il n'y a pas eu de grands changements jusqu'à l'explosion du virus. Je crois que c'était début mars, hein. mi-mars, un petit peu partout dans le monde. Et à partir du moment où il y a eu une grosse explosion du virus partout dans le monde, ça a été brutal, un petit peu comme tout le monde, d'un point de vue de l'aviation.
À ce moment-là, quand tout s'est arrêté, les compagnies ont souvent différents réflexes, plus ou moins bénéfiques. Enfin bon, après, c'est une question de point de vue. Quelle a été un peu la réaction de la compagnie, passé la stupeur initiale des arrêts de voyage qu'on n'avait jamais connus?
La réaction de la compagnie, alors c'était quand même assez opaque, hein, on n'avait pas trop de communication là-dessus. Au départ, c'était les dirigeants, chefs pilotes, etc., étaient assez... on va dire assez rassurant dans leur discours, puisqu'en fait ils disaient que ça allait prendre 6-9 mois avant de repartir, il y aurait pas de souci, on allait absorber ça, qu'il y avait du cash, ils arrêtaient pas de nous parler du cash dans la compagnie, c'était très important d'avoir des réserves de cash hein, bien évidemment dans l'aviation et dans les compagnies aériennes, et donc ils étaient quand même assez confiants, même si derrière ils le savaient qu'il pouvait y avoir des répercussions beaucoup plus importantes. D'ailleurs, pour la petite anecdote, c'est des personnes qui ont été rassurantes au début, on va dire au milieu du Covid, ont tous gardé leur poste à l'issue. Hein, mais ça, j'y reviendrai après. C'est quand même assez marrant. Au début, c'était assez rassurant. La compagnie a diminué les vols. Hein. Donc, on est passé d'une activité journalière où on avait un planning qui était quand même C'était chargé mais assez cool, hein. On faisait un aller-retour par jour, pas tous les jours parce qu'on avait des jours off, mais c'était quand même, le rythme de travail était quand même vraiment relax. Et on est passé à un vol toutes les semaines, un vol toutes les deux semaines, ensuite un vol tous les mois à partir de juillet, voire tous les deux mois jusqu'à la fin en octobre 2020. Donc on faisait beaucoup d'aller-retour avec pas beaucoup de passagers. J'ai vu des loads à 3-4 passagers avec beaucoup de fret par contre en soute, puisque la 330 a quand même une soute assez assez conséquente, heureusement, ce qui permettait de pas trop perdre d'argent, même s'ils en perdaient à chaque vol. Il n'y a eu qu'une flotte qui a été maintenue en l'air chez KT Dragon, c'était la flotte d'A330. Moi j'ai des collègues qui ont fini leur transformation initiale sur A320 qui n'ont jamais volé. Donc ils ont fini leur QT en fin février 2020 et ils n'ont jamais volé en fait chez KT Dragon. Ils ont été maintenus sur le système de paye, donc sur payroll, jusqu'en octobre. Et ensuite à l'issue, ils ont été licenciés comme tout le monde. Donc vraiment, il y a eu ça a été un arrêt assez soudain de la flotte d'A320 à partir de mars 2020 et une diminution des vols d'A330 avec bien évidemment des passagers qui étaient aux abonnés absents, parce que au vu des mesures en plus assez restrictives à Hong Kong et en Chine concernant l'arrivée et le départ des passagers c'était vraiment très très drastique, hein, des mesures draconiennes. C'était une atmosphère un petit peu bizarre et tous les vols qu'on faisait, avec les capitaines, on se posait la question, qu'est-ce qui va se passer? Enfin, c'est vraiment le sujet principal, comme je pense dans toutes les compagnies dans le monde à ce moment-là.
Ah oui, alors ça c'est sûr. Puis il y a ceux qui étaient au sol en se posant la question, puis ceux qui avaient la chance d'être un petit peu en l'air, mais voilà. Et donc comment est-ce que ça s'est fini, KT Dragon, pour toi? Comment est-ce qu'on réagit à ce moment-là, en plein milieu du Covid, de perdre son boulot?
Alors en fait ça a été assez brutal pour tout le monde. Il y avait des fuites qui, des éléments qui avaient fuité dans la presse locale, dans le South China Morning Post notamment, comme quoi KT Pacific allait licencier pas mal de personnes, mais ils ne parlaient pas beaucoup ils ne parlaient pas d'ailleurs d'une fermeture de compagnie. Nous on a appris ça, on a eu des grosses rumeurs la veille de la fermeture de la compagnie via le SCMP, là, le South China Morning Post, qui en fait disait que KT Dragon allait certainement fermer avec des centaines voire des milliers d'emplois supprimés le lendemain. Donc on attendait un petit peu, c'était un petit peu le jour de, enfin pas de la peur, mais voilà, c'est jamais très très confortable d'attendre ça. Donc on attendait entre expat, moi j'habitais à Discovery Bay, qui était sur l'île de Lantau, donc l'île de l'aéroport donc de Hong Kong. Et donc du nouvel aéroport, hein, c'est pas l'ancien aéroport qui était situé en centre-ville. Là, c'est une autre île en fait qui se situe à l'ouest de l'archipel de Hong Kong. Et donc on attendait entre expats. Et le matin là, donc on attendait les mails. Moi, je regardais. J'avais pris mon iPad pour sauvegarder tous mes training records. Tu sais, tous les enregistrements de mon entraînement, notamment les simus qui tous étaient notés avec des avis, tous les line checks, parce que j'avais fait pas mal de line checks et de simus entre temps, parce que vu qu'il fallait voler assez fréquemment en étant nouvel employé pour ne pas avoir besoin de line check, vu que je volais pas assez, chaque vol était quasiment un line check. Bon, heureusement les captains étaient assez compréhensifs, c'était plutôt cool. Donc voilà, j'ai essayé d'avoir les enregistrements de tous ces paramètres là. Et donc heureusement j'ai réussi à les télécharger le matin, et aux alentours de 9h du mat, un truc comme ça, ils ont pris contrôle de mon iPad à distance. Et c'était un peu bizarre parce qu'en fait je pouvais plus rien toucher, je voyais les applications qui supprimaient au fur et à mesure sur mon iPad. Donc j'ai vu ça en live, c'était assez marrant a posteriori. Sur le moment c'était un peu scary as shit parce que tu voyais tout ce qui se désinstallait, j'avais accès à mes mails uniquement en réception, je pouvais plus envoyer de mail, et j'avais plus accès à aucun de mes comptes mes comptes compagnie pour aller voir mon planning, pour aller voilà. Tout ça c'était coupé, et on a reçu un mail dans l'ordre inverse de seniorité, c'est-à-dire que les plus seniors ont reçu le mail en premier, donc du capitaine le plus âgé de la compagnie jusqu'au first officer le plus jeune. Donc on a reçu au fur et à mesure notre lettre de licenciement en disant bah vous, voilà c'est cool, vous avez été terminé aujourd'hui, vous étiez employé par Cathay Dragon, moi j'étais employé à partir de novembre 2019 jusqu'à octobre 2020. La marche à suivre, puisque ça a été préparé en amont, hein, tout ça, il y avait des personnes qui savaient les semaines précédentes, hein. Donc la marche à suivre va être d'effectuer ces démarches là avec une forme, voilà, en fait tout était déjà prêt si tu veux pour le licenciement. On a à ce moment là plus accès à notre compagnie, donc on pouvait plus aller dans notre compagnie, donc à Cathay City, juste à côté de l'aéroport, chercher par exemple nos lettres, puisqu'on avait une boîte aux lettres professionnelle. On n'a pas pu aller relever notre courrier à Cathay City. En fait, tout était bloqué, les accès étaient bloqués avec des personnes de la sécurité à l'entrée, nous interdisant en fait de rentrer dans la compagnie, dans le siège de la compagnie. Donc ça c'était assez brutal. Ils nous ont demandé ensuite de renvoyer nos effets personnels par courrier. En fait c'est quelqu'un qui est venu les chercher dans une boîte. C'était vraiment très très impersonnel, hein. C'est ce type de licenciement, c'est même si c'est pas du tout c'est pas confortable, hein, on s'entend, c'est, alors je souhaite à personne ça, mais à vivre une fois c'est quand même assez c'est assez pas choquant, mais ouais, tu dis ouais ça existe. Et tu te rends compte qu'en France aussi, t'es quand même pas mal,
protégé, je sais pas si c'est le bon terme.
Ouais, ouais. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est pas le terme que je cherchais, mais t'es pas mal protégé effectivement par tout un système qui est quand même beaucoup moins à l'anglo-saxonne et beaucoup moins, on va dire, brutal dans la façon de faire les choses. Parce que là, du jour au lendemain, en fait, moi, j'étais pas seul, hein, quand il parlait de centaines et de milliers de personnes, enfin, centaines, voire mille personnes au South China Morning Post, on a été 6000 personnes à être licenciées le 22 octobre, je crois, ou le 24 octobre, enfin, je sais plus exactement. Donc, ouais, c'était assez épique.
Waouh, effectivement, c'est très impressionnant comme récit. Et donc, passer le choc initial tel que tu as décrit, comment on se relève de ça, c'est le milieu du Covid, l'aviation est totalement à l'arrêt, quoi. Qu'est-ce qu'on fait ensuite dans ce genre de situation? Mais ça dépend un peu de chacun, mais...
Ouais, moi je vais d'abord te parler des personnes qui étaient sur place, parce que les moins à plaindre, on va dire, c'était les expats qui en fait pouvaient rentrer chez eux modulo les mesures anti-Covid, notamment pour les Australiens, ça a été un enfer pour eux. Mais pour les Hongkongais, tu sais, par exemple les personnels au sol qui étaient dans cette compagnie, qui sont fait licencier du jour au lendemain, ça a pas forcément été évident, parce que vivre à Hong Kong sans aucun revenu, tu fais pas long feu, quoi, hein, surtout si t'as pas beaucoup de cash sur lequel t'es assis, c'est pas forcément facile. Il y a eu un truc qui était vraiment énorme, je m'y attendais pas, mais ça a été la solidarité des Hongkongais, des entreprises hongkongaises vis-à-vis des personnes de Cathay Dragon. Ils ont pas créé des postes, mais quasiment pour beaucoup de personnes locales, des expats aussi, hein, mais c'était surtout les locaux qui en avaient besoin, qui ont été embauchés par pas mal de compagnies, en fait, dans Hong Kong. Donc il y a une grosse solidarité. Nous, par exemple, on allait, alors vu qu'on était expat, on allait dans des petits restaurants droite à gauche locaux, là, par exemple. Et ils nous, ils savaient qu'on était de chez Cathay Dragon. Ils nous posaient la question, donc ça va, comment ça se passe? Les restaurateurs locaux, on leur disait, nous, on va repartir. Et à chaque fois, ils nous appliquaient une réduction. Donc je trouve que c'était, il y a eu vraiment un élan sympathique et vraiment de solidarité envers les personnes qui ont été licenciées, les personnes de chez Cathay Dragon et aussi de chez Cathay Pacific, hein, parce que tu as eu beaucoup de personnes de chez Cathay Pacific qui ont été licenciées, notamment des jeunes pilotes. Donc tu as eu une solidarité hongkongaise qui était assez impressionnante et ça faisait plaisir à voir. Après, d'un point de vue personnel, moi, c'était un cas un petit peu atypique parce que j'étais parti de l'armée de l'air au bout d'un contrat. Moi, mon rêve, ça avait été c'était de partir dans la marine nationale, faire du rafale à bord du porte-avions Charles de Gaulle. Et heureusement, entre guillemets, plusieurs mois avant mon départ de chez Cathay Dragon, j'étais en contact avec la Marine nationale et avec notamment les gestionnaires de la Marine pour trouver, parce que j'avais planifié de partir de chez Cathay Dragon s'il était possible de me faire recruter par la Marine, puisqu'à ce moment-là, les forces françaises recrutaient des personnes qui étaient parties avant le Covid et pour rendre service aux personnes qui avaient besoin d'un travail et qui étaient, on va dire, qualifiées. Moi, j'avais pas forcément besoin d'un travail à ce moment-là, mais vu que mon objectif initial c'était quand même de rentrer dans la Marine nationale, j'avais recontacté les gestionnaires pour savoir si c'était possible, éventuellement de pouvoir faire quelques années de contrat dans la Marine. Et ils ont travaillé assez longuement avec moi pour trouver un accord. Et en fait, au moment, si tu veux, où moi, je pense que c'était un cas unique parce que j'ai vraiment eu de la chance. Mais au moment où Cathay Dragon a été fermé, j'étais déjà en pourparlers avancés avec la Marine nationale pour pouvoir me faire réentrer en tant qu'officier. Donc sur Rafale Marine, et ça c'était vraiment une chance. Donc au moment, grosso modo, au moment où j'ai été licencié, je signais ma demande de réintégration. Donc j'ai vraiment eu de la chance à ce niveau-là.
Waouh. Alors ça c'est excellent, c'est génial. Et puis en plus c'était ton rêve c'était l'aspect Rafale qui t'intéressait ou l'aspect Marine ou la combinaison des deux finalement?
La combinaison des deux, mais surtout l'aspect Marine qui m'a toujours attiré. Et je peux le dire maintenant, hein, quelques années après, je m'étais pas trompé, hein, dans mon intérêt, on va dire. Mais ouais, c'est j'ai eu de la chance à ce moment-là. On va dire que c'est une trajectoire qui est un petit peu biscornue, hein, c'est hors du commun, et encore une fois, j'ai eu de la chance aussi d'avoir des gestionnaires en face de moi qui ont été quand même très réactifs et qui étaient aussi je pense intéressés par un profil tel que le mien, mais qui ont aussi facilité les choses.
Et donc dans ce cas-là, on imagine que tu as dû refaire, alors je sais pas comment ça se passe dans le militaire, mais tu avais déjà quand même très solide base de pilote de chasse. Est-ce que c'est comme dans le civil où tu refais une sorte de qualification de type? Ça ressemble à quoi pour changer d'une machine à l'autre, puis d'un environnement à l'autre aussi finalement?
Ouais, alors le plus dur n'a pas été ce qu'on appelle la QT dans le civil, la qualification de type, hein, entre guillemets, sur Rafale, parce que c'est la transfo Rafale. Ça n'a pas été le plus dur. Je veux dire que le plus dur, ça a été de re-rentrer dans la marine, puisqu'en fait, pour à des fins de recrutement, j'ai dû repasser les mêmes tests que les EOPAN, si tu veux. Donc fin 2020, donc quand je suis rentré en France, ils m'ont fait repasser les mêmes tests que les EOPAN, un petit peu plus âgés, on va dire. Et voilà, donc j'ai dû tout refaire avec entretien chez la psychologue, pourquoi vous voulez être militaire, etc. Bon, ça m'a fait un petit peu sourire, mais j'ai dû me prêter au jeu. Et donc ça a été la partie qui était un petit peu plus funky, mais bon, il fallait la faire. Après, la partie transformation, à proprement parler, c'est un petit peu comme dans toutes les armées, hein. Tu dois refaire. Moi, bien sûr, j'ai pas refait transformation militaire puisque j'étais déjà officier dans l'armée de l'air. Donc la partie marine, il y a pas trop eu de problème à ce niveau-là. J'étais plutôt entre guillemets plug and play. Ça a été la partie Rafale et la partie aussi marinisation, parce qu'il y a des différences entre la marine et entre l'armée de l'air, hein, au niveau de l'emploi du Rafale, pas forcément, mais au niveau de tout ce qui gravite autour, notamment ce qu'on appelle les domestiques dans l'armée de l'air, c'est différent au niveau de la marine nationale. Donc il a fallu quand même un petit temps d'adaptation, mais avec du travail, avec du travail, ça se fait entre guillemets correctement. Bah après, c'est pas forcément à moi de dire, c'est plutôt à mes pairs dans la marine nationale, mais ouais, c'est voilà, il y a un petit peu d'adaptation.
Et du coup, l'appontage, c'est aussi cool que ça en a l'air. C'est ça, je pense que c'était ça un peu le but aussi.
Ouais, alors l'appontage, c'est cool. Catapultage, c'est encore plus cool. Mais ça, l'appontage et le catapultage et l'environnement porte-avions nécessite une rigueur vraiment extrême, hein, dans l'utilisation de la radio, dans l'utilisation de la gestuelle, aussi bien avec le personnel au sol le personnel au sol sur le pont d'envol qu'avec d'autres personnes, qu'avec les équipiers en vol, etc. Ça nécessite une rigueur qui est extrême, et c'est un environnement qui est complètement nouveau quand tu arrives de l'armée de l'air. Dans l'armée de l'air, c'est extrêmement rigoureux aussi, hein, mais c'est différent. On va dire qu'il y a des façons de fonctionner sur le porte-avions et dans l'aéronautique navale, dans la chasse embarquée, qui sont spécifiques à la chasse embarquée. Voilà, que tu ne retrouves nulle part, puisque la rigueur et l'emploi d'avions de chasse à partir d'un porte-avions, en fait, ça nécessite une rigueur et vraiment une adaptation parfaite, parce qu'en fait, on va dire que l'avion de chasse à bord du porte-avions est une finalité, mais il y a énormément d'équipes qui travaillent à bord du porte-avions pour pouvoir justement mener à bien la mission qui est de catapulter des avions du porte-avions et ensuite de les ramasser dans un espace-temps qui est quand même assez contraint. Et c'est une mécanique qui est quand même assez impressionnante, puisque ce qu'on voit en fait sur le pont d'envol, c'est juste le sommet de l'iceberg. Vraiment, en dessous, il y a pas mal de personnes qui travaillent dans la chaîne aviation, etc., pour justement mettre en œuvre les avions et accomplir la mission.
Du coup, c'était quoi comme contrat ? Quel était un peu ton point de vue en termes de comment t'envisager l'avenir ? Est-ce que c'était un contrat fixe comme ce que tu avais eu avant ? Est-ce que c'était une sorte de CDI ? Alors, je sais pas comment ça se dit dans l'armée. Est-ce que tu avais prévu de retourner dans le civil ou pas à ce stade-là ?
Ouais, alors moi, je me posais pas trop la question à ce stade-là. Si tu veux, j'envisageais pas forcément de quitter après mon premier contrat. Peut-être pourquoi pas de re-signer un contrat, mais effectivement, c'est des contrats à durée déterminée que tu signes. Hein. Tant que tu n'es pas de carrière, tu n'as pas de CDI, entre guillemets, tu es toujours lié à un contrat, donc officier sous contrat ou officier commissionné, puisque c'était mon statut à ce moment-là. Et ouais, donc tu sais que tu es parti pour un certain nombre d'années, et voilà, en tant que militaire, c'est comme ça, tu signes ton contrat, et tu sais que s'il n'y a pas de gros changements d'un point de vue gestion des ressources humaines, tu pourras, si le gestionnaire te l'autorise, re-signer un contrat dans la foulée.
Et du coup, quel était un peu ton objectif ? L'objectif, c'était de rester, de retourner en civil. Comment est-ce que tu voyais l'avenir à partir de ce moment-là, vu du porte-avions sur Rafale ?
Moi, mon objectif, c'était pas forcément de partir assez tôt, puisque j'ai quand même énormément aimé la vie sur le bateau. J'ai aimé les opérations à partir du porte-avions. Le Rafale Marine, c'était superbe, hein, surtout les standards qui arrivent, là, le F4. Et les différents sous-standards qui vont arriver dans la foulée, là, c'est quand même une super machine. Les opérations sont quand même exceptionnelles. J'imaginais pas un retour dans le civil aussi rapidement, on va dire, mais j'ai eu des petits inputs familiaux qui ont fait que je ne pouvais plus embarquer à ce moment-là à l'issue de mes premiers embarquements. Donc j'ai dû transitionner dans le civil à partir de ce moment-là. Retransitionner dans le civil, on va dire, parce que c'était ma deuxième reconversion.
Effectivement, c'est pas commun d'en refaire autant, je pense.
Ouais, c'est ça.
Et donc, on imagine effectivement que c'est une vie qui est pas tout repos, que ce soit pour toi ou pour les personnes qui restent à terre, entre guillemets. Donc, tu avais déjà fait l'Asie. Est-ce que l'idée de retourner en France t'est venue, ou est-ce que l'expérience d'expatriation vous a tellement plu que vous avez voulu retenter le coup, qui était un peu votre. Comment est-ce que vous avez vu les choses à ce moment-là?
En fait, comment est-ce qu'on a vu les choses à ce moment-là ? On gérait plus dans le court et le moyen terme à cause des petits soucis familiaux, donc on se voyait plus rester en France à côté de la famille et avoir du soutien comme ça, les choses s'améliorant au fur et à mesure, et le fait de pouvoir partir justement de l'armée dans un temps assez contraint, ça nous a permis d'ouvrir un petit peu les horizons, et notre situation familiale nous aidant aussi à ce moment-là, on a pu envisager un départ, puisqu'on est, on avait un statut de résident permanent au Canada, avec un soutien potentiel au Canada, donc d'envisager un départ à court ou moyen terme au Canada.
Ça, c'est intéressant, ces problématiques d'immigration. Quand on avait fait l'épisode sur le Canada avec Alexandre il y a un certain nombre d'années maintenant, il y avait cette problématique d'immigration. Est-ce que vous l'aviez déjà, le résident permanent ? Est-ce que c'était un projet que vous nourrissiez depuis longtemps ? Parce qu'il me semble que ça prend du temps, normalement. Tu peux pas faire ça du jour au lendemain, si mes souvenirs sont corrects.
Ouais, c'est ça. Nous, on avait déjà la résidence permanente canadienne, puisqu'on avait fait la demande quelques temps avant, hein, avant même le Covid, hein, je crois, pour avoir la résidence permanente. Non, ça a été vraiment un enchevêtrement de de circonstances qui nous ont emmené à dire ok bah là en fait c'est possible d'aller là-bas avec la condition familiale qu'on avait à ce moment-là et bah on a saisi l'opportunité de pouvoir aller là-bas et on ne connaissait pas la durée à ce moment-là de notre petite aventure canadienne. On la connaît pas toujours pas à ce moment-là, hein, au moment où je te parle. Là. Mais ouais, c'est quelque chose qui avait été envisagé bien avant et on avait la résidence permanente avant et on a eu la chance de l'avoir. Ça peut être assez délicat de l'avoir, hein, d'un point de vue immigration puisque c'est un dossier que tu fais ça a mis du temps aussi, hein, avant de l'avoir puisque c'est avec le Covid, les traitements, etc. Mais on l'a eu bien avant mon départ de l'armée.
Et donc, quand tu es arrivé en Amérique du Nord, je pense que la plupart des gens ont entendu parler du manque de pilotes qui s'applique aux États-Unis, et pas tellement en Europe, mais il y a eu beaucoup d'actualités autour de ce manque de pilotes à cause de la règle des 1500 heures que toi, je pense, tu avais largement à ce moment-là. Donc, si je dis pas de bêtises, en fait, tu es arrivé sur un marché ultra favorable de l'emploi. C'était pareil au Canada, aux US qu'au Canada.
Ouais, c'était pareil au Canada, effectivement. Bon, après, il faut savoir que quand t'as la résidence permanente canadienne, tu vas pas travailler aux États-Unis, c'est pas possible. Il te faut un minimum un visa de travail là-bas ou alors la green card. Tu sais, c'est un peu comme dans Game of Thrones, t'as le mur qui sépare les gens du Nord et les gens du Sud. Bah, c'est un petit peu comme ça ici, d'un point de vue de l'emploi et surtout des pilotes. Puisqu'il y a un manque de pilotes au Canada, ça c'est clair. Après, il y a aussi un gros manque de pilotes aux États-Unis, mais au vu des protocoles d'accord entre gouvernements, le gouvernement canadien et le gouvernement américain se sont mis d'accord tous les deux afin de pas ponctionner les pilotes canadiens, parce que si les Américains ponctionnent les pilotes canadiens, bah, il va y avoir un gros souci au Canada. Déjà qu'il y a un souci, il y a pas mal d'avions qui restent cloués au sol parce que bah il y a pas assez de pilotes pour les avions actuellement, hein. C'est assez clair. Si en plus l'industrie aéronautique américaine ponctionnait les pilotes canadiens, bah là le Canada serait vraiment embêté parce que c'est pas comme en Europe, c'est pas comme en France. En fait, on peut pas comparer l'aviation française et l'aviation canadienne. Le Canada c'est quand même très très grand, hein. Moi pour faire Montréal Calgary pour ma formation, bah je mets même si Montréal c'est pas le plus à l'est et Calgary c'est pas le plus à l'ouest, je mettais 4h40 de vol, quoi. Donc tu vois, on n'est pas du tout dans les mêmes dimensions et le marché canadien c'est surtout un marché domestique et il y aura besoin jusqu'à dans très longtemps il y aura besoin des avions pour se déplacer au Canada. Tu t'as pas un réseau ferré comme en France et t'as pas une connectivité des différentes de villes qui est la même qu'en France, quoi. C'est pas du tout la même chose géographiquement. On n'est pas sur les mêmes pays, pas du tout.
Et donc, lorsque tu as postulé dans les compagnies aériennes, est-ce que tu as tout de suite reçu beaucoup d'intérêt de la part des recruteurs? Est-ce que ça a mis un peu de temps? Est-ce que tu t'es retrouvé avec plusieurs offres d'embauche? À quoi est-ce que ça ressemblait par rapport à l'Europe où souvent c'est quand même beaucoup plus compliqué?
Alors, si tu veux, avant de postuler, il faut convertir sa licence, parce que quand tu as une licence EASA, bah, tu n'as pas une licence Transport Canada, donc qui est l'équivalent des licences de l'EASA. Transport Canada, c'est l'équivalent de la DGAC, hein, grosso modo. Quand t'as pas ces licences-là, donc t'as pas la conversion canadienne, mais c'est pas possible de voler ici sur des avions immatriculés au Canada. Donc dans un premier temps, il faut faire sa conversion. C'est un processus qui est assez long, puisqu'en fait, il faut tout repasser, hein. Tu as juste le crédit de tes heures de vol. Tu dois repasser les examens théoriques. Donc t'as trois examens à passer, donc le CPL théorique, le vol aux instruments théoriques, et également le Saron Samra qui sont l'équivalent des 14 UV à TPL qu'il faut que tu te retapes, même si c'est un petit peu plus light, hein, qu'en France. Donc ça tu dois te le refaire, et pas mal bosser, et ensuite bah tu dois te refaire également les tests en vol, donc le test CPL et le test IRME. Bien évidemment ils te les font pas repasser directement, ils te font un petit peu voler dans le pays avant de passer les tests. Donc tu fais quelques heures de vol. Moi j'ai fait, je crois, 5-6 heures de vol avant de passer le CPL, 4 heures de vol, enfin 5 heures de vol, bref, avant de passer le CPL. Et l'IRME, j'ai fait 3 simu et 2 vols avant de repasser le test IRME. Donc c'est un processus qui est Je l'ai fait en 3 semaines et demie. Tout ça là, c'était, j'ai pas beaucoup dormi, je dois t'avouer. J'ai beaucoup bu de café et j'ai pas beaucoup dormi. J'avais bossé en amont hein, avant de faire ça, mais ouais, c'est un processus qui nécessite du temps, parce qu'entre le moment où j'ai passé ma visite médicale et le moment où j'ai fait mon dernier test et où j'ai poussé mon dossier pour avoir la TPL Transport Canada, bah, il a dû se passer 6 mois, un truc comme ça. Donc avant de postuler, voilà, il faut que tu passes tes licences, donc tes conversions de licence, et une fois que tu as tes conversions de licence, et bien là tu peux postuler. Et là par contre, avec un CV, avec des heures de vol, l'expérience chasseur, l'expérience CS25 hein, comme ce qu'on dit en France, donc 705 comme ce qu'on dit ici, et bien c'est un peu plus facile. Donc j'ai directement eu des entretiens, je crois que j'ai déposé mon CV dans certaines compagnies, j'ai eu une demande d'entretien 4 heures après. Donc c'était assez rapide. Grosso modo, on est arrivé sur le territoire canadien mi-juillet. Le 14 juillet, j'ai dû repousser mes entretiens, puisque au début ils voulaient me faire passer les entretiens. Moi j'ai passé mes licences, mes derniers examens de licence, je crois le 10 ou le 11 juin. J'ai posé mon dossier ATPL le 12 juin et je devais avoir des entretiens le 20 juin, un truc comme ça. Donc j'ai dû repousser à mi-juillet. Donc on est arrivé le 14 juillet. Mon premier entretien, c'est entretien visio. Le 17 juillet, je crois que j'en ai eu un deuxième le 18 et un troisième le 21. Et je crois que j'ai eu une offre entre-temps. J'ai eu une offre le 19 juillet, une offre le 20 juillet, wow. Et ensuite plus tard. C'était
incroyable.
Ça s'est plutôt bien passé. Et
ça se passe en Europe. Pour ceux qui nous écoutent qui sont en Europe, c'est pas du tout ça l'ambiance.
ici c'est un peu démentiel. Et j'ai dû repousser mon arrivée en compagnie, puisque je voulais attendre d'avoir les résultats pour d'autres compagnies avant de prendre ma décision. Et j'ai repoussé mon entrée en compagnie mi-septembre. Donc le temps de s'installer, le temps que les enfants aient à l'école, que mon épouse commence son nouveau travail. Donc j'ai commencé en compagnie mi-septembre à ce moment-là.
Excellent, ça c'est incroyable. Donc en Europe, c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne pour ceux qui nous écoutent, mais c'est chouette, franchement, c'est génial.
Ouais, ça va super vite et c'est très agréable parce que t'es fixé. Bon, ça dépend les compagnies, hein, mais pour certaines compagnies, t'es quand même fixé assez vite et ça te permet de te projeter et même pour certaines compagnies, si tu veux, à l'offre d'emploi, ils te demandent quelle base est-ce que vous voulez avoir, quoi. Parce qu'en fait, ils ont tellement de besoins dans toutes les bases. Moi, je veux aller sur cette base-là ou sur cette base-là. Je vais être basé, par exemple, en Colombie-Britannique, ou en Alberta, ou à Québec, au Québec, ou en Ontario. Enfin, tout est possible.
Du coup, tu as eu plusieurs offres, si je comprends bien ce que tu expliques. Comment tu as choisi? Sur quels critères? Qu'est-ce qui était important pour toi?
Moi, si tu veux, après avoir passé une bonne partie de... On va dire une première partie de ma vie professionnelle a pas mal bourlingué, on va dire, entre l'armée de l'air où j'étais pas mal absent, j'ai eu mes deux premiers enfants qui sont d'ailleurs mes derniers. Donc j'ai eu mes deux enfants dans l'armée de l'air, on a pu bouger en tant qu'expat à Hong Kong, ensuite repartir dans la marine où il y a eu des absences. Moi, là, mon attention, elle se porte plus sur la famille et sur la qualité de vie que je peux avoir en fonction du type d'opération que je peux avoir. Donc, mon choix s'est porté sur une compagnie qui vole plus dans l'ouest du Canada, qui est une grosse compagnie, qui me permet d'avoir un niveau de vie correct, hein, puisque il faut aussi gagner un peu d'argent, mais également d'avoir une qualité de vie et une vie familiale épanouie. Donc moi, c'était mon but principal. Après mieux réflexion, parce que c'est pas forcément facile, tu peux aller dans notamment une compagnie qui est plus grosse et qui est plus, on va dire, reluisante d'un point de vue notoriété, même si c'est pas forcément avéré. Le choix s'est porté plus sur un choix familial. Simplement. Moi, ce que je veux là, c'est passer du temps avec mes enfants, bien évidemment, parce que les enfants ils sont jeunes qu'une fois, Et si c'est pour avoir un planning, parce qu'en Amérique du Nord et en Europe, c'est un petit peu différent. Enfin, la gestion des plannings est un petit peu différente. En Amérique du Nord, tu as une gestion des plannings qui est basée surtout sur la seniorité. C'est-à-dire que plus tu es senior dans la compagnie, plus tu es âgé dans la compagnie, hein, tout simplement, plus tu as la main sur ton planning. C'est-à-dire que quand tu es employé au départ, tu ne peux pas avoir la main sur ton planning. C'est-à-dire que tu vas récupérer les vols, entre guillemets, de merde. Tu pourras mettre un bib sur ce mot-là. Tu vas récupérer un planning qui est pas forcément adapté à une vie familiale. Grosso modo, pendant 2-3 ans, t'as aucun de tes week-ends. Tu voles en semaine, tu fais énormément de découchés et t'as pas du tout la main sur ton planning. Et ensuite, tu as un petit peu plus la main sur ton planning, sauf si tu veux redevenir capitaine. À ce moment-là, tu redeviens le plus junior des capitaines et donc tu n'as de nouveau pas la main sur ton planning. Et le problème avec ça, c'est que tu te retrouves à faire 7-8 ans sans avoir la main sur ton planning, en volant tous les week-ends, en n'ayant jamais les vacances que tu demandes. Voilà. Donc ça, c'est un système qui est basé sur la seniorité. Donc c'est le cas dans quasiment toutes les compagnies d'Amérique du Nord, sauf dans la compagnie que j'ai choisie. Et le système, donc dans ce qu'on appelle social billing, te permet donc non pas de baser tes choix sur la seniorité, enfin tes choix seront, les résultats de tes demandes seront pas basés sur la seniorité, mais elles seront basées sur un indice de satisfaction, ce qui est un petit peu fait chez Air France, hein, je crois que c'est le même système. Et cet indice de satisfaction va te permettre de demander des choses au fur et à mesure des mois qui seront acceptées ou pas, mais ça sera jamais, on va dire, basé sur la seniorité. Et ça, c'est quand même vachement important, puisque ça te permet d'avoir ce que tu veux, au moins d'avoir la plupart du temps ce que tu veux. Et par exemple, si tu veux ne pas voler les week-ends, si tu demandes à chaque fois de ne pas voler les week-ends, mais que tu demandes rien d'autre, tu ne voleras jamais les week-ends. Et je pense que c'est important, quand tu as une famille, de pouvoir demander un petit peu ce que tu veux au niveau planning, et surtout de pouvoir adapter ton planning en fonction de tes enfants. Voilà, par exemple, là, en décembre, c'est simple, hein, moi, je pensais jamais avoir ça, mais en décembre, j'ai passé Noël à la maison, j'ai mes vacances de Noël, et le nouvel an, je vais certainement l'avoir en fonction de mon planning de début janvier. Donc, c'est quand même vachement agréable.
Ah, ça, c'est excellent, c'est très intéressant, ces différences de planning avec l'Europe. Au niveau aéronautique, ça donne quoi? Donc, tu fais du 737, si mes souvenirs sont bons, ce qu'on avait discuté. La neige, la météo, tout ça, ça change quoi par rapport à l'Europe?
Alors, ce qui change par rapport à l'Europe, c'est une espèce de, grosso modo, quand tu sais que l'hiver arrive, tu sais que ça va dégivrer, tu sais que tu auras des procédures d'ICE, voilà. Donc en fait, t'es énormément formé par rapport à ça. L'accent est mis sur ces procédures-là, sur le givrage en vol. L'accent est mis aussi sur les particularités nord-américaines, avec tu as beaucoup, surtout aux États-Unis, des procédures qui sont faites avec des ILS multiples, ce qu'on appelle les ILS PRM, avec des procédures de dégagement, puisque tu as des pistes qui sont parallèles et qui sont très proches l'une de l'autre. Et parfois, tu peux voir dans les vidéos sur Internet, hein, des avions qui sont en finale établis sur l'axe ILS, sur des pistes parallèles très proches des unes des autres, de façon simultanée. Donc en fait, tu as des procédures de breakout de ces finales qui sont des procédures particulières. Donc tu dois t'entraîner à ça. Tu dois également t'entraîner à faire des approches très basse visibilité, parce que l'hiver, par exemple, quand tu vas te poser en Labrador ou quand tu vas te poser dans le Nord, même si on fait pas le Grand Nord, hein, dans les compagnies majeures, ça peut pas forcément être évident d'un point de vue météo. Donc tu es entraîné directement sur du 4-3, c'est du 4-3A, on fait pas de 4-3B hein, dans ma compagnie. Donc sur du 4-3A et sur de la grosse procédure dégivrage / anti-givrage, et aussi sur du breakaway en fonction des pistes qui te sont assignées, notamment aux États-Unis.
Ok, très bien, ça a l'air vraiment très intéressant. Tout ça, c'est effectivement assez différent de l'Europe. Comment est-ce que toi, tu vois l'avenir? Alors, il a été plein de surprises jusqu'à maintenant. Est-ce que le but, c'est de se stabiliser, passer commandant, profiter d'être plutôt tranquille en tant que copie? Comment est-ce que tu vois ça?
L'avenir, oui, on va voir en fonction des différentes contraintes familiales globales hein, que je vais avoir. On verra, je ne sais pas si ça va être un retour en France ou de continuer en Amérique du Nord, ça sera au Canada dans tous les cas. Mais un avenir fait de stabilité de planning, hein, comme tu as bien compris, mes choix ont un petit peu shifté hein, à ce niveau-là. De stabilité, de passage commandant, pas forcément tout de suite, juste profiter des vols. Profiter de la vie et également faire un peu d'instruction puisque j'ai de la chance ici de avec un ETPL IRME et également des heures de vol de pouvoir faire de l'instruction multimoteur aux instruments. Donc ça je pense que je vais en faire d'ici peu l'instruction et ça va être sympa et aussi de voler en Amérique du Nord dans un premier temps dans le civil on va dire dans l'aviation générale qui pourrait je pense que le vol en Amérique du Nord et notamment avec ce que tu peux avoir dans l'Ouest avec les rocheuses également du pilotage de brousse tout ça ça m'attire comme tous les passionnés d'aéronautique donc je pense expérimenter tout ça donc faire de l'instruction faire du vol un petit peu de brousse dans le nord avec des posées dans les lits de rivière tout ça ça m'intéresse.
Effectivement, ça a l'air excellent. Écoute, si ça te va, je te propose qu'on s'arrête là. Eh bien, Mathieu, merci beaucoup d'avoir accepté de revenir sur le podcast pour nous raconter la suite de ton histoire.
Mais écoute, sans souci, ça me fait plaisir de revenir sur ton podcast.
Bonjour Fabien et bienvenue sur le podcast. Tu es donc le deuxième de la série qu'on appellera peut-être Que sont-ils devenus ? Donc pour revenir un peu en arrière, toi tu étais venu lors de l'épisode 28 où tu nous avais parlé de Twin Otter, de plages paradisiaques, de pistes en coquillages écrasés. Bienvenue sur le podcast une fois de plus. Et est-ce que tu peux nous recadrer de là où on était la dernière fois qu'on s'est quitté ?
Écoute, bonjour Antoine. Effectivement, beaucoup de temps s'est passé depuis 5 ans, depuis le Twin Otter sur les îles paradisiaques de Tetiaroa et Bora Bora. Aujourd'hui, j'ai rejoint le low cost. Donc, effectivement, 5 ans où il s'est passé beaucoup de choses dans mon expérience professionnelle depuis mon départ de Tahiti. Et écoute, la dernière fois qu'on en avait parlé, effectivement, j'avais même évoqué que la Polynésie, avec toute sa magie, ses couleurs de lagon, etc., cette expérience incroyable du Twin Otter, c'est vrai qu'on n'est pas un insulaire, je suis pas né insulaire, et que une petite île au milieu du Pacifique, ça peut arriver, même en famille, de tourner un peu en rond. Donc on avait envisagé assez rapidement, début 2019, de rentrer en Europe. Et je me suis décidé à passer un certain nombre de sélections, dont Ryanair, Air France qui était revenu à ce moment-là, commençait à recruter à nouveau. Donc j'ai passé les sélections Ryanair et j'ai passé les Psi-Zero, la première session de Psi-Zero avec Air France, sur un de mes retours, et également la compagnie aérienne LOT, qui j'avais réussi à avoir ces deux sélections sur une période de 2 semaines sur un retour en Europe avec Ryanair. Les deux sélections s'étaient très bien passées, c'était courant avril 2019, et j'ai eu le choix entre les deux compagnies, entre la LOT et Ryanair. Les deux sélections s'étant très bien passées, un petit coup de cœur pour la LOT parce qu'on a été extrêmement bien reçus à Varsovie, un environnement plutôt sympathique, des gens très bienveillants pendant ces entretiens, une bonne équipe. Ça, j'ai vraiment hésité et ils m'ont proposé de faire du Dash 8 Q400 et puis j'avoue que les sirènes du 37 et l'évolution à mon âge avancé sur 37 et chez Ryanair m'ont fait décider de rejoindre Ryanair. Donc après cette petite période d'euphorie en rentrant à Tahiti, à l'été 2019, on décide de rentrer donc tous en famille et ma qualif chez Ryanair étant prévue à la mi-août. Et comme je suis un chat noir invétéré, c'est pas quelque chose de nouveau. Je l'accepte très bien, je le vis très bien. À 3 jours du départ de Tahiti, Ryanair nous appelle et nous dit, écoutez, Vous avez sûrement entendu parler du Brexit, c'était l'été 2019, les problèmes de 737 Max, je ne vais pas revenir dessus. On doit recevoir des Max, on n'en reçoit plus, donc votre QT est en stand-by. Ok, très bien, et donc je ne commence pas dans 15 jours. C'est ça, vous ne commencez pas dans 15 jours et on ne sait pas quand vous commencez. Donc évidemment, impossible de faire marche arrière, j'ai démissionné, on a vendu la maison à Tahiti, donc trois jours après, on quitte Tahiti. Arrivé en métropole, j'ai contacté Zimex, avec qui forcément j'étais en bon terme, puisque je volais quand même des commandants Zimex à Tahiti, et rapidement ils me disent « bah écoute, si tu veux, nous on te prend en freelance ». Donc je suis parti, et je me suis retrouvé à voler pendant un mois et demi au Soudan du Sud pour la Croix-Rouge internationale, donc une expérience de bush pilot juste incroyable. Je dis pas que c'est ce que je ferai toute ma vie, mais une très très belle expérience, je pense, dans une carrière de pilote, c'est à vivre en tout cas.
Ça, le Soudan du Sud, s'il y a quand même un endroit qui est quand même... quiconque a un peu suivi l'actualité ou se souvient de cette époque-là, c'était quand même un des pires moments. Ça ressemble à quoi de voler là-bas? Ça, c'est quand même vraiment particulier, je pense.
Alors, c'est très particulier. J'ai été très bien accueilli par des gens très expérimentés qui volaient là-bas depuis un certain nombre d'années. Il faut s'imaginer un aéroport où tout est détruit, des épaves d'avion de tous les côtés. Un taxiway où sont alignés des Cessna Caravan, des LED 410, des Twin Otter, forcément pour nous, des vieilles machines russes de tous les côtés, et tous les matins à 7h30 jusqu'à 8h30 tous les avions veulent partir pour les différents terrains pour amener on est tous pour soit pour des ONG soit pour transporter pour nous pour la Croix-Rouge pour aller supporter des tribus qui n'ont rien, enfin je veux dire qui souffrent à la fois de la famine, des intempéries, de la guerre, et donc on s'imagine un contrôleur dans une tour aérienne qui n'a pas de radar, qui n'est pas payé depuis 6 mois, c'est ce qu'on nous disait là-bas. Donc un gars qui doit gérer à peu près, 50 messages radio à la minute, et tout le monde se bagarre pour parler en premier. On part dans un environnement qui est pas simple, puisque je parlais de la beauté de la Polynésie, mais des risques d'orage. Mais là, on est vraiment en Afrique, sur la partie où on a des orages extrêmement violents. D'ailleurs, le Soudan, malheureusement, souffre de ces inondations à répétition. On est dans le Nil blanc, donc avec où c'est très plat, avec le Nil qui déborde partout, et puis une pauvreté. C'est vrai que ça remet nous petits Européens, ça nous remet en face d'une certaine réalité du monde, qui nous fait réaliser que tout n'est pas si facile. Et en termes d'expérience pilote, c'est déposé sur des pistes en latérite, des pistes qui sont pas droites, des pistes qui sont inondées, des pistes où il y a des animaux qui se baladent, des gens qui se baladent. C'est de la radio avec des Russes qui parlent pas anglais. J'ai souvenir d'un vol où on arrivait sur un terrain, il y avait un Ilyushin 76 qui devait faire 4 passes de largage de sac de riz. Ils comprenaient rien de ce qu'on disait. Nous, on voulait se poser, mais en gros, on a dû attendre qu'ils aient fini leurs 4 passes de largage parce que de toute façon, eux, ils avaient décidé de larguer et puis nous, on pouvait pas se poser. Et donc après, il fallait que les habitants aillent ramasser les sacs de riz sur la piste avant que nous, on puisse se poser. Enfin, voilà, des expériences, des choses qu'on verrait pas dans un environnement EASA. En tout cas.
Après le Soudan, t'as été dans d'autres endroits comme ça ou t'es revenu dans des choses plus standards, disons?
Alors, plus standard, c'est-à-dire qu'à l'issue du Soudan, comme je dis, je voulais voler et puis que voilà, je voulais que ça s'enchaîne, je suis parti à Wallis et Futuna. Donc, sur l'île de Wallis, à cette époque, Arcalin avait leur Twin Otter qui était en panne et c'est un Twin qui fait la liaison Wallis-Futuna, Futuna-Wallis. C'est un vol de 1 heure au-dessus du Pacifique, que de l'eau. Et pendant que Zimex faisait l'entretien de leur Twin Otter, Zimex a amené convoyé un avion là-bas. Et moi, j'ai fait le lancement de l'opération et pendant 2 mois, je suis resté à faire la connexion entre pour les Futuniens et les Wallisiens sur ces deux îles qui se rapprochent un petit peu de la Polynésie. On est dans le milieu du Pacifique. Je pense qu'on est la destination française la plus éloignée puisque je crois qu'on doit être à 25 heures d'avion déjà de Nouméa. Et de Nouméa, il y a encore on passe via Nandi au Fidji pour venir. C'est une escale en 320 pour récupérer des passagers à Nandi avant d'arriver à Wallis. On est au bout du monde là-bas, vraiment. Ils sont 9000 à Wallis, 3000 à Futuna. C'est des gens adorables, qui sont extrêmement touché par la malbouffe et toutes les maladies cardiovasculaires qu'il peut y avoir là-bas. C'est assez triste pour eux parce que c'est des gens qui sont vraiment adorables, qui ont ce sentiment d'être vraiment au bout du monde. Là, c'est, pour le coup, c'est une réalité. Ils sont au bout du monde. C'est un endroit où il y a deux hôtels sur Wallis. Il n'y en a pas à Futuna. Il y en a deux sur Wallis. Et des hôtels, on parle d'une maison où il y a deux chambres pour les gens de passage. Il n'y a pas de touristes, en fait, à Wallis. Les gens ne vont pas en vacances à Wallis. C'est juste des gens qui viennent rejoindre leur famille ou... Voilà, donc c'était une très belle expérience qui se rapprochait assez fortement de la Polynésie, pour ce que j'avais vécu en tout cas. Voilà, et puis après cette expérience, ils m'ont envoyé 15 jours au Qatar pour faire, ils avaient besoin d'un copie pour faire du largage para pour l'équipe nationale du Qatar. Voilà, je suis resté 2 semaines parce que rapidement, ils avaient besoin que des captains là-bas, puisqu'ils faisaient en même temps que le largage para pour l'équipe nationale du Qatar, ils faisaient de la formation pour les pilotes qataris. Voilà, les pilotes qui, avant d'être envoyés en Calif C-130, Zimex avait eu le contrat pour former les pilotes, en tout cas les remettre à niveau en IFR. Voilà. Donc je suis resté 15 jours. Voilà pour cette expérience Twin Otter.
Et donc là, on commence à se rapprocher, été 2019, on commence à se rapprocher dangereusement du Covid. Est-ce que toi, tu as commencé à avoir des nouvelles de Ryanair au fur et à mesure que les choses se passaient ou pas du tout?
Alors oui, effectivement, on est arrivé en décembre. Là, je suis rentré, j'ai passé quasiment 3 mois en dehors de la maison. Je suis rentré en début décembre. Tous les voyants étaient au vert. Air France nous convoque pour les psys en janvier. Ryanair nous rappelle et nous demande de repasser au CIMU gratuitement. Donc, je n'ai pas eu à repayer les fameux 300 euros pour aller passer un CIMU. Voilà, c'est dans toute leur bienveillance. Voilà, donc je suis reparti à Dublin. Et là, effectivement, c'était juste... pour voir ce qui était motivé, je pense. Donc voilà, on était tous motivés, bien sûr. Et là, ils nous donnent une date de début de formation au 16 mars 2020. Voilà, Air France, les psy, on se passe très bien. J'espère avoir la chance de passer des psy 2, ce qui n'arrivera malheureusement pas. Et comme beaucoup de monde, ça doit parler, le 16 mars 2020, c'est la fameuse date de ce confinement. Et alors, c'était assez intéressant parce que dans la semaine qui a précédé, j'avais beaucoup d'Italiens dans mon OCC Ryanair. Et donc, début de semaine, ils ont viré les Italiens. Milieu de semaine, ils ont viré les Espagnols. Et puis le samedi, quand on a commencé à sentir que toute l'Europe serait fermée, eh ben, tout a été arrêté pour une durée de plus de un an et quelques. Voilà, un an et 2 mois quasiment. Voilà. Et donc le confinement est arrivé. Alors bon, ben, au début, c'était un petit peu le choc, hein, comme n'importe qui. On a vécu ça plutôt bien au début. C'était tout le monde à la maison, il faisait beau, c'était une belle période. Là, avril 2020, on a bénéficié, comme tout le monde, j'ai bénéficié d'une belle météo dans ma maison avec ma femme et mes enfants. C'était plutôt sympathique. Et puis par contre, est arrivée la fin du confinement et la réalité de ce qui se tramé pour l'aéronautique, c'est-à-dire que les gens n'avaient pas vu d'avion pendant quasiment 2-3 mois. Tous mes copains ingénieurs chez Airbus étaient à la maison à se demander s'ils n'allaient pas être licenciés, parce que tout le monde se disait, bah, finalement on se passe de l'avion, est-ce que demain il y aura besoin d'avion est-ce qu'on ne va pas tout arrêter? Beaucoup de pessimisme ambiant et évidemment beaucoup de CV envoyés, aucun retour. Et là, la réalité me frappe en pleine figure, que je m'étais toujours dit ingénieur, pilote, j'arriverai toujours à jongler entre les deux. Et là, bah, tous les CV ingénieurs, bah, rien qui fonctionne, absolument rien. Aucun retour, et toutes les compagnies me disent, compagnies, constructeurs, on hésite à licencier, donc évidemment, on ne va pas recruter. Donc, se pose une question, que faire? Voilà, quand t'es comme moi un pur produit aéronautique depuis plus de 20 ans, qu'est-ce que je sais faire à part parler d'avion, si je puis dire. Et donc, par des rencontres, toujours pareil, c'est ça qui est intéressant, dans nos vies, c'est les rencontres. Je suis tombé sur un copain d'EasyJet qui avait son beau-frère qui était fromager. Et elle me dit, on parle fromage comme ça, c'était assez rigolo. Je dis, j'adore le fromage. Et puis il me dit, bah, ça t'intéresserait pas de faire du fromage? Je suis pas fromager, j'ai une expérience. Enfin voilà, c'est pas mon domaine. Mais la question finalement m'a taraudé la soirée. Et puis je me suis dit, mais demain, s'il y a rien qui marche, qu'est-ce qui marche aujourd'hui déjà dans ce monde post-confinement ? Y a la nourriture qui fonctionne, tout ce qui est nourriture, les gens vont tous acheter de la bonne bouffe, les gens vont malheureusement dans les hôpitaux, parce que c'est aussi ça qui marche, mais je me sentais pas du tout de me lancer dans une formation médicale, donc finalement, sa petite proposition de « ça t'intéresserait pas à faire fromager », je l'ai rappelé, je lui ai dit « est-ce que je pourrais faire un essai ?» voir ce que ça dit. Évidemment, avec l'idée en tête, si ça me plaît, pourquoi pas, je me voyais déjà avec ma boutique, etc. Et je suis allé faire un essai. Donc, sur les fromages, sur les marchés à Annecy, j'ai fait 2 journées avec lui, avec la famille du boulot, dont le père était meilleur ouvrier de France. Et j'ai trouvé ça extraordinaire. Voilà. Toutes les histoires à raconter autour du fromage, toutes les connaissances à avoir aussi dans ce domaine-là. Un milieu de passionnés. Et c'est là où c'était très intéressant, c'est que j'ai retrouvé un milieu de passionnés. Quand on vient de l'aviation, c'est pas toi qui va dire le contraire, j'imagine. On est tous dans un milieu de passionnés, on parle d'avion tout le temps. Mais là, je me suis retrouvé dans un autre milieu de passionnés, où les gens parlaient que de fromage, de techniques fromagères, d'histoires de fromage. Et j'ai vraiment vu des gens qui vibraient pour ce qu'ils faisaient. Et ça, ça a fait mouche. Et donc, j'ai dit, pourquoi pas, alors, faisons fromager, quelle bonne idée. Et du coup...
C'est quand même super improbable comme idée, parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui, dans des situations adverses comme ça, et je reconnais, j'en aurais fait probablement partie, dans d'autres circonstances, où tu prends un boulot un peu alimentaire en disant, allez, fais chier, je vais faire ça pour faire quelque chose. Mais ça n'avait pas l'air d'être ton état d'esprit, tu as réussi à prendre... en tout cas, ça avait l'air vraiment de te plaire de faire ça. Et je trouve que c'est super de réussir à faire ça.
Alors, ce que je me suis dit, en tout cas dans l'état d'esprit dans lequel je me suis mis, déjà j'ai pris exactement comme tu le dis à bras le corps. Je me suis dit, si tu le fais, faut pas que ce soit un truc alimentaire, faut que ce soit quelque chose qui te plaît. Donc fais-le à fond. J'ai pas l'habitude de faire les choses par dépit. Donc je me suis dit, si je le fais, je le fais à fond. Et je me suis dit, quoi qu'il arrive, on reste des passionnés d'aviation. Ça va être c'est une formation d'un an. Il va rien se passer pendant un an. Ça redémarre. Même si ça redémarre, ça va pas redémarrer du jour au lendemain. Ils vont pas recruter dans tous les sens. Donc, je me donne un an. Je fais quelque chose de différent, qui va me sortir de cette ambiance morose de l'aérien dans lequel on était à la sortie du confinement. Et je vais penser à autre chose. Et on verra dans un an. Voilà. Et effectivement, avec à me projeter, à me dire, pourquoi pas m'acheter une boutique, pourquoi pas monter une boutique. Enfin, bref. Ça va être la découverte pendant une année, il fallait que je profite de cette année où il allait rien se passer dans l'aérien pour apprendre quelque chose de différent, de nouveau. Et c'est vraiment dans cette idée que je suis parti dans cette formation fromagère. Et voilà, et donc finalement, je n'ai pas pu le faire avec la famille du boulot puisque eux n'avaient pas les capacités de me recevoir. Et je l'ai fait chez un meilleur ouvrier de France à Annecy qui s'appelle Pierre Gay, qui est situé rue Carnot, qui est la vitrine, la bijouterie du fromage, on peut dire ça ainsi. Et j'ai été formé par un des meilleurs dans le milieu, en tout cas sur les Savoies. Et ça a été une expérience incroyable dans cette boutique, une super équipe. Et ça m'a... Alors c'est marrant parce que pour la petite anecdote, on était toujours avec nos fameux masques sur le visage à cette période-là et je voyais passer en boutique des gens que j'avais croisés dans l'aérien. Certains, je baissais le masque pour leur dire « Salut, tu me reconnais ?» Et puis, j'en ai vu certains qui étaient vraiment en galère. J'ai pensé en particulier à un pilote qui était en aviation d'affaires, qui s'est retrouvé au chômage du jour au lendemain, qui ne savait pas quoi faire, qui tournait en rond et qui m'a regardé les yeux écarquillés. « Mais qu'est-ce que tu fais là ?» Je dis « Écoute, voilà, je suis fromager. » Et j'ai senti un peu à la fois de l'interrogation, de la surprise, un peu décontenancé, mais tu vas faire ça? En même temps, faut bien travailler, on va pas rester à la maison. Donc, j'ai eu des réactions assez atypiques, assez surprenantes parfois, en boutique, des gens, mais c'est pas possible, qu'est-ce que tu fais là? Des gens que j'avais croisés à Genève quand j'étais directeur dans ma boîte G-Création, qui me dit, mais bon sang, mais t'étais directeur dans une boîte et tu te retrouves à faire fromager. Mais alors, au contraire, qu'est-ce que j'ai appris pendant cette année, autant personnellement, humainement que techniquement, parce qu'évidemment, il y a des choses techniques à apprendre, mais l'humain était extrêmement important. Voilà, et donc cette année de fromagère a été passionnante, comme je viens de vous le dire. Et puis derrière, on s'est retrouvé fin 2021. Et là, les sirènes de l'aéronautique sont revenues vers moi. Et puis en même temps, une prise de conscience que le marché du fromage était quand même c'est pas si simple de monter une boutique, ça n'est pas si simple de me verser un salaire rapidement, on est quand même dans l'artisanat. J'ai énormément de respect pour tous ces gens qui travaillent dur, parce qu'ils travaillent extrêmement dur, tous ces artisans. Et pour beaucoup, c'est des fois en se versant des très très petits salaires. Et je me suis rendu compte que finalement, être employé dans une fromagerie, ça n'est pas très si simple déjà pour faire vivre la famille. Que monter une boutique, ça n'est pas simple, j'étais pas meilleur ouvrier de France. Je m'appelais pas Pierre Gay, j'étais pas la famille du boulot, donc il y avait beaucoup d'étapes à passer pour arriver à faire quelque chose de viable et pérenne. Et puis en même temps, l'aéronautique m'a ressurgi dessus comme ça, sans prévenir, puisque j'ai été contacté encore une fois par un ami en commun qui m'a parlé d'un projet. Assez passionnant de monter une compagnie aérienne sur Annecy avec la société Avialp qui exploitait un petit Citation Mustang à l'époque en privé pour des entrepreneurs de la région et qui souhaitait pour amortir les frais de cet avion développer une compagnie aérienne pour pouvoir vendre du vol à la demande depuis Annecy. Et j'avais un ami qui avait commencé à travailler sur ce projet, qui partait vers d'autres aventures professionnelles et qui m'a dit, écoute, super équipe, Annecy, tu vas voir, il y a plein de perspectives, ils sont ATO, ils ont un atelier de mécanique, il y a de l'aviation d'affaires, il y a plein de choses. Et donc j'ai rencontré les deux dirigeants, Jérémy Chen et Emmanuel Réti, et effectivement le courant est tout de suite passé entre nous. J'ai rapidement saisi les enjeux pour eux du projet et puis du coup j'ai rejoint l'équipe d'Avialp en début d'année 2022. Voilà, ça c'était en février exactement 2022. J'ai rejoint l'équipe pour un projet qui durera avec eux un an et quelques mois jusqu'à mon intégration chez Air France.
Donc juste avant d'aller chez Air France, le fait de construire une compagnie aérienne, pas tout à fait de rien, parce qu'il y avait quand même une petite opération avant, en quoi ça consiste, qu'est-ce qu'il y a à faire et en quoi est-ce que tes expériences précédentes étaient pertinentes? Parce qu'être pilote et monter une compagnie aérienne, c'est quand même deux compétences, je pense, assez différentes.
Tout à fait. Alors, dans mes expériences passées, par exemple à Tahiti, on a eu ce travail d'intégration du Twin Otter dans la compagnie, le développement des Manex. C'est des sujets qui auxquels j'avais été sensibilisé déjà. Mais j'avoue que c'était un petit peu un saut dans le vide. C'est-à-dire que, évidemment, monter une compagnie aérienne comme ça, c'est très vague. Et là-dessus, soit Emmanuel ou Jérémy avaient été assez rassurants. Tu verras, avec la DGAC, on est extrêmement bien guidé. C'est vrai qu'à la base, c'est rédiger un annexe A, B, C, D, rédiger un camé pour, parce qu'aujourd'hui, on est obligé de faire le suivi de navigation en tant que compagnie aérienne. Donc, il y avait quand même beaucoup de choses à faire avec la DSAC, mais aussi avec l'OSAC. Mais effectivement, il y a énormément de guides qui se retrouvent sur le site de la DGAC, qui m'ont permis de structurer et d'avancer progressivement dans ce domaine. Et ça, c'est vrai que ça, après l'expérience, les expériences des gens autour de moi, que ce soit Emmanuel, Jérémy ou même mon prédécesseur Alain qui avait commencé à travailler sur le projet, ont été très bénéfiques. Effectivement, c'est progressif. Ça s'est pas fait du jour au lendemain. C'est vrai qu'au début, on a une somme d'informations qui nous tombe dessus. Par où on commence, comment on peut structurer tout ça. Et puis, progressivement, les réunions s'enchaînent. On est aussi guidé un petit peu par la DSAC et par l'OSAC. Et puis finalement, tout ça se met en place, la mise en place des audits, la mise en place de la structure du projet avance finalement. Alors, au moment on se dit, ça y est, on a tout jalonné, ça va aller hyper vite. Après, il ne faut pas vouloir aller plus vite que la musique, et c'est aussi ça que je me suis rendu compte dans ce projet, c'est que rapidement, on veut faire plaisir en disant oui, dans 6 mois, ça sera fini. Et finalement, on s'aperçoit qu'on peut pas aller plus vite que la musique. L'institution, que ce soit l'OSAC ou la DSAC, ne va pas plus vite que la musique. Il y a les gens ont plein de projets aussi de leur côté. On n'est pas les seuls à monter une compagnie aérienne. Et on ne peut pas, il faut laisser le temps au temps. Et c'est un projet, je pense que pour n'importe quelle compagnie, faire ça en moins d'un an, un an et demi, c'est très ambitieux. Je trouve que déjà, avoir fait ça en un an et demi pour Avialp, c'est déjà un très, très beau challenge. Donc voilà, du coup, c'est ce qui s'est passé. Et le projet a même été réorienté, puisqu'au début, on était, comme je te le disais, sur Mustang. Et on est passé sur DA62, puisque les propriétaires ont décidé à un moment donné de vendre le Mustang avant qu'on arrive au bout du projet, suite à des problèmes techniques de l'avion. Et du coup, on a réorienté le projet sur des DA62, ce qui a fait qu'aussi, dans le projet en lui-même, on est passé d'un avion réacteur à un avion à piston, d'un avion multipilote à un avion monopilote. Donc, c'était au niveau du Manex D, de toute la partie training, plus du tout la même chose. Donc, il a fallu à nouveau recommencer. Rédiger un Manex B, puisqu'évidemment, on change. J'avais rédigé un Manex B pour le Mustang, ben là, il fallait rédiger un Manex B pour le DA62. Donc là, j'ai été bien accompagné aussi par les gens qui volaient sur le DA62. Donc là aussi, c'est un vrai travail d'équipe. On est plus un gestionnaire de projet plutôt que. Je n'ai pas tout fait, j'ai été très bien accompagné par plein de gens. C'est ça aussi qui était passionnant dans ce projet.
Et donc, comme tu l'as mentionné il y a quelques minutes, tu as ensuite pu retrouver un emploi de pilote. Est-ce que, bah, quand tu fais de la conformité, tu n'étais pas loin d'une école de pilotage, tu n'étais pas très loin d'une petite compagnie d'aviation d'affaires, est-ce que l'envie de pilote et de redevenir pilote, d'aller voler, a pointé le bout de son nez?
Alors oui, et c'était un petit peu aussi ça le leitmotiv dans cette aventure avec Aviab, c'est que ils avaient un pilote qui allait prendre la retraite sur le Mustang. Pour les dirigeants, il était clair que quand le projet de compagnie aérienne serait lancé, vu la taille de la structure et vu le nombre de vols, un pilote à mi-temps qui aurait fait de la conformité, c'était le plan idéal. Et donc, dans le projet, c'était dès l'obtention du CTA de faire une QT Mustang et de commencer à faire du Mustang. Donc effectivement, j'ai eu l'occasion de voler régulièrement avec eux chez Avialpes, de voir un petit peu l'organisation. Donc voilà, ça me trottait toujours en tête, bien évidemment. Et puis bah voilà, Air France a repointé le bout de son nez au moment le plus inattendu. On arrivait quasiment à 3 ans après le passage des Psy 1, même si je l'ai relancé régulièrement. Et là, je ne dirai jamais assez, ne jamais rien lâcher. Toujours. Tous les 2 mois, je renvoie un petit email à Air France. Ne pas voilà. Se dire, je suis toujours là. Voilà, je suis toujours motivé pour vous rejoindre. Ne pas se dire, ils me recontacteront quand ils me recontacteront. Je me suis toujours astreint tous les 2 mois, dire au fait, j'ai passé les psy en janvier 2020. Est-ce que vous auriez pas une chance de passer les psy de bientôt? Et effectivement, en octobre 2022, ils m'ont dit, on vous êtes convoqué en janvier. Et donc, j'ai travaillé ça très sérieusement. Je me suis bien entouré. J'ai fait un gros travail personnel. Et puis, à l'issue de ces psy 2, j'ai reçu la réponse positive. Et on m'a proposé de rejoindre Transavia au mois de mai 2023. Voilà, donc depuis mai 2023, j'ai rejoint le groupe Air France et donc Transavia pour faire du 737.
Bon, alors ça, c'est génial. Et puis, si je peux me permettre la question presque impertinente à ce stade, et Ryanair, ils t'ont rappelé un jour, suite à toute cette temporisation et puis à l'annulation de ta qualif à cause du Covid?
Alors oui, alors tu fais bien d'en parler, parce que c'est vrai que quand j'étais en formation de fromager, donc on était à ce moment-là en mars 2021, donc un an après nous avoir annulé tout ça, nous avons reçu un petit email nous disant, est-ce que vous êtes le fameux mail qu'on reçoit avec ce de compagnie. Est-ce que vous voulez toujours rejoindre Ryanair? Si oui, tout de suite. Si oui, mais pas tout de suite, ou non. Et moi, j'étais en formation. Je me suis dit, pourquoi pas? Voyons voir les conditions. Mais là, je finis ma formation de fromager. C'est hors de question que je bazarde tout. Je suis parti dans une idée. Donc, j'ai dit oui, mais pas tout de suite. Et quand 3 mois après, sans aucune nouvelle, j'ai rappelé, on m'a dit, mais non, monsieur, faut repasser toute la sélection, évidemment. Là, c'est comme si vous aviez dit non, en fait. J'ai fait, d'accord, ok, très bien. Donc, la QT n'était plus, bien évidemment, plus à 5000 euros comme elle l'était en 2019. Elle était passée à plus de 30 000 euros. On était revenu, voilà, dans les schémas de Ryanair d'il y a 4-5 ans auparavant. Et donc, je leur ai dit, écoutez, c'est très gentil, mais non, ce coup-ci, je ne repasserai pas la sélection. Voilà.
Du coup, Au final, ça s'est bien goupillé parce que le groupe Air France, c'est génial. Du coup, tu as fait une QT 737. C'était ton premier jet, en fait. Du coup, ça s'est passé comment, tout ça?
Alors, oui, effectivement, c'était premier jet, si je fais abstraction, d'il y a plus de 20 ans de l'Alpha Jet, quand j'étais à l'armée. Mais effectivement, on va dire le premier avion de ligne, et on peut vraiment dire premier jet, clairement, aujourd'hui. Et ben, ça a été dur. Ça a été dur, la remise dans le bain. Je vais pas vous mentir. C'était quelque chose qui a été la remise dans le bain, on va dire le pilotage, ça ne s'oublie pas, mais le 737 n'est pas forcément un avion évident, c'est pas un avion autocompensé comme le 320. Beaucoup d'effets induits, hein, la découverte d'un DV, j'avais jamais connu un DV, donc au début, cette croix qui se balade devant moi, dans mon circuit visuel, j'avoue que j'étais un petit peu perdu. Donc, non, beaucoup de travail personnel, beaucoup de remise en question, et non, pas un début pas simple, dans le sens à se dire, voilà, il faut y arriver, mais c'est pas si simple que ça. Et puis finalement, le training est tellement bien fait que c'est progressif, les simus se sont enchaînés, et puis c'est vrai, on arrive pour le skill test, voilà, on pense être à peu près à un niveau prêt pour commencer à voler en ligne, et puis le premier vol en ligne arrive, on se dit finalement on est complètement derrière, hein, ça va être dur. le premier vol, à part décoller l'avion et le poser sans le casser, on se dit bon, ok, mais alors tout ce qui s'est passé entre temps, ça a été à la vitesse lumière. Pourtant, j'ai pas eu un vol qui était très court. Je crois que mon premier vol, j'ai fait sur Djerba, donc c'était vraiment pas un vol court. Donc on a quasiment 2h30 de vol. Donc c'était j'avais le temps en vol, mais ouais, ça a été très très rapide. Mais l'AEL est extrêmement bien faite. J'ai eu une AEL 46 secteurs, donc comme un jeune pilote débutant. Et la progression a été vraiment significative. Et quand je suis arrivé pour mon line check mi-novembre, j'étais vraiment prêt. Et j'ai vraiment senti la différence entre le premier vol presque 2 mois plus tôt et le lâcher en ligne sur un terrain pas simple comme Madrid, mais par chance 2 jours et par beau temps. Voilà.
Excellent. Et donc Transavia, groupe Air France, comment est-ce que tu vois l'avenir pour toi? Comment tu te projettes pour les prochaines années?
Alors écoute, pour une fois dans ma carrière, je me dis, je vais pas commencer à me poser la question de changer de boîte. Déjà, ça c'est bien, c'est une première étape hyper passionnante de se dire, enfin là je peux me poser dans une boîte où je vais me sentir bien. En tout cas, le ressenti déjà chez Transavia depuis le mois de mai est extraordinaire. C'est une boîte dans la boîte, dans le groupe Air France, où il y a une vraie bonne ambiance, il y a une vraie dynamique, les gens sont motivés. Je pense que comme n'importe quelle compagnie qui se développe, je pense qu'on est dans une très bonne conjoncture en ce moment et Transavia en bénéficie. Les gens sont tous motivés, sont tous à fond, tout le monde a le slogan, le feel good, très anglo-saxon, mais c'est vrai que tout le monde a cette dynamique positive à chaque vol, et pour l'instant le ressenti est très bien. Et la perspective pour moi déjà, c'est d'être un copilote qui au niveau, qui fait bien son job le mieux possible pour acquérir l'expérience dans cette compagnie. Et non, les sirènes du long courrier sont pas encore trop présentes. Je pense que justement, après toutes ces années d'arrêt, de vol, de reprise, je serais très content de rester au moins 3-4 ans chez Transavia, parce qu'on pilote pas mal, on a un secteur qui est un réseau qui est incroyable. On part quand même on va jusqu'en Laponie et on descend au sud jusqu'à Dubaï, en passant par Dakar, les Canaries, toutes les îles grecques, Vienne, on va vraiment Copenhague, on va vraiment en Islande. Le réseau est incroyable. Donc c'est vrai que les perspectives sont pas illimitées, mais je suis pas comme beaucoup évidemment dans mon OCC qui venait d'autres compagnies aériennes, qui avaient connu du Ryanair, du EasyJet. Moi le long courrier, ça viendra quand ça viendra, mais j'ai pas une aspiration à en faire tout de suite. On verra comment les choses se présentent. Par contre, assez intéressé et motivé pour faire des choses annexes. Évidemment, mon parcours forcément me motive à faire des choses annexes. Avoir travaillé pendant un an et demi sur des manexes, je me dis il y a des choses peut-être intéressantes à partager avec Transavia, surtout dans cette période d'intégration de notre nouvel appareil, le 320 Neo. À voir. Je pense que justement la chance extraordinaire du groupe Air France, c'est les possibilités innombrables qui s'offrent pour un pilote, que ce soit en vol ou au sol.
Ok, très bien. Bah écoute, Fabien, merci beaucoup d'avoir partagé ton parcours, une fois de plus assez sinueux, je pense, mais qui se termine très bien. Et puis donc ainsi se conclut donc cette discussion. Merci beaucoup d'avoir accepté de venir sur le podcast une fois de plus.
Bah écoute, avec grand plaisir. Et un conseil aux jeunes, ne lâchez jamais rien. Moi, ça m'a pris plus de 20 ans pour rejoindre Transavia, en tout cas notre belle compagnie. Soyez toujours motivés et aimez ce que vous faites, quoi que ce soit. Voilà, bonne journée à tous.
Ainsi se conclut donc le 139e épisode de ce podcast. J'espère que ces deux discussions vous auront plu. Si c'est le cas ou pas d'ailleurs, vous pouvez envoyer vos félicitations, remarques, suggestions et doléances sur l'adresse email habituelle contact@parlonsaviation.com. Je vous invite à vous abonner sur votre application de podcast favori. Également, n'hésitez pas à laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcasts, ce qui permettra à d'autres personnes de découvrir ce podcast. La description de cet épisode est disponible sur notre site web parlonsaviation.com/139. Je tiens à remercier Mathieu et Fabien d'avoir accepté de revenir sur le podcast. Je remercie également Jordan pour son aide à la production audio. Si vous voulez recevoir des notifications lors de la sortie des nouveaux épisodes, le formulaire n'existe plus désormais, donc envoyez un email à contact@parlonsaviation.com et je vous ajouterai. Sinon, vous pouvez nous suivre sur Twitter, sur @parlonsaviation et sur Facebook. En vous souhaitant des vols nombreux, je vous remercie d'avoir écouté ce 139e épisode de Parlons Aviation.